Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'arme. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Clindinardaire,
journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Oh, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui dans les studios, nous sommes cinq, il y a Charlotte, Eva, Jean, Gauthier et moi, Léa. Et nous allons vous proposer la lecture d'un texte qui s'appelle « Elles y croient qu'elles peuvent voler ». Donc ça, c'est le nom de la saga. Et aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 5 qui s'appelle « Bienvenue à bord ». C'est une saga qui a été écrite par Eva Natalia Grenier qui va nous en parler un petit peu plus. Mais avant, je voulais juste vous dire qu'au niveau de la distribution, ce que ça va être, c'est que je vais interpréter le personnage d'Elisa. Cha va jouer Megan, Jean, c'est là que c'est extrêmement drôle. Jean va nous jouer Jean. Voilà. Et Gauthier va être le narrateur. Donc Eva, qui a écrit le texte, est-ce que tu peux un petit peu nous resituer où on en est dans l'intrigue générale dans la saga et puis nous dire quelques mots sur l'épisode qu'on va lire aujourd'hui ?
Mais complètement. Bonjour à tous. Du coup, on en est à l'épisode 5 de la saga. Et en fait, à chaque épisode, moi, j'essaye de m'influencer, de me donner des règles du jeu. Sur cet épisode-là, je me suis donné la règle du jeu des réseaux sociaux. J'ai vraiment essayé de partir de choses où on passe du coq à l'âne, où on commence souvent avec des tons un peu badins, un peu légers, pour ensuite partir sur des choses un peu plus profondes, qui sont vraiment les propos qu'on veut défendre. Et là, par exemple, je pars de choses un peu plus posées, pour poser la situation, et derrière, ça va partir plus sur des manifestes pour que vraiment le message puisse un peu plus se corroborer et jouer sur ce jeu des réseaux sociaux où on passe vraiment de l'un à l'autre. Aujourd'hui, du coup, sur l'épisode 5, je vais vous rappeler un peu l'histoire et de quoi ça va traiter. Donc en fait, la saga, c'est l'histoire de deux cousines trentenaires qui sont de la génération Y, donc que moi j'appellerais la génération un peu sandwich, c'est les gens nés entre 80 et 90, qui ont tout connu d'un monde sans informatique et qui ont dû grandir avec les codes de la société matérialiste et informatisée. Donc elles se rencontrent 10 ans après s'être perdues complètement de vue, parce qu'il y a le fils caché de la première cousine, qui est Megan, qui vient de retrouver sa mère biologique. Elisa, elle va prendre en charge cette adolescente 16 ans qui s'appelle Jean, parce que sa cousine n'en est pas vraiment capable. Ça confronte le personnage d'Elisa à beaucoup de questionnements, et c'est l'élément déclencheur pour parler de la confrontation des générations. Donc en fait, dans chaque épisode, je prends un sujet et je le confronte avec la manière dont les parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents ont pu traiter de ce sujet. Et là, aujourd'hui, on va parler de la transition entre la génération Y et les millennials, c'est-à-dire les gens qui sont nés dans les années 2000. Et on va traiter notamment des mutations physiologiques et morales qui sont induites par nos nouveaux comportements sociaux, mais aussi par plein de choses. Non, mais en fait, je veux pas trop en dire, donc du coup, j'essaye de savoir ce que je veux vous dire ou pas, mais on va s'arrêter ici. Donc il s'agit d'une autofiction, donc des fois j'utilise des choses que j'ai réellement vécues, et à la base de ça, je corrobore et je crée de nouvelles situations. Donc voilà, je pense que là on sait un peu tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer la lecture. Donc c'est l'épisode 5 d'Elles y croient qu'elles peuvent voler. Bienvenue à bord.
Thank you.
Une combinaison beige en pilou sur le corps, la tête sous une capuche, avec des oreilles de chat, et une bouteille de vionnier déjà à moitié entamée sur la table. Elisa se rendait compte que, dans les films, les préjugés, les raccourcis, les images fortes, eh ben, elles venaient bien de la réalité. Ou l'inverse. Ton cerveau, il est tellement imprégné de ces images que, malgré toi, dans la vie, tu les recrées. Qui s'inspire de qui ? Et d'où ton unicité enrôle des idées ? D'où les idées mettent en place tes particularités à toi, que tu crois rien qu'à toi ? Telle une Bridget Jones version 2019, elle bravait son canapé dès qu'elle en avait l'occasion. La seule différence était qu'en 1999, les combinaisons pilou à oreilles de chat ne se trouvaient pas aussi facilement et que si aujourd'hui, un garçon met un pull moche de Noël, il n'est pas ridicule, il est tendance. Les années passent et recyclent des principes à tout va. Avachie sur son canapé, en tentant d'attraper le verre qu'elle venait de resservir, elle tomba, le front en avant, sur le rebord de la table. Elle se recroquevilla de suite au-dessus de son tapis, et à la place de petits pleurs, face à la douleur de sa soudaine chute, elle pouffa de rire. Son index et son majeur tressautant sous son nez. Son pouce essayant de calmer les sons furtifs qui sortaient de sa bouche. Son autre main tenait, vaillante, le verre, encore miraculeusement plein. En plein milieu de ce yoga alcoolisé tardif sur tapis plein de miettes, Elisa se mit à mordre sa lèvre du bas et, avec sa main libre, prit le téléphone pour appuyer sur la touche Megan de ses contacts. Il fallait qu'elle lui dise que Jean avait deviné qui était son père, qu'il allait le rencontrer et qu'elle l'aidait, que Samy, son premier amour, était réapparu dans sa vie et qu'elle se sentait un peu comme un pneu au milieu d'une décharge. Comme un pneu tout troué qui a roulé des kilomètres sans rien demander à personne, en emmenant les gens délicatement d'un point A à un point B, en acceptant les détours. Qu'elle était un pauvre pneu qu'on avait abandonné sur la chaussée, dont personne ne voulait plus. Et qu'elle ne voulait pas finir brûlée sur un rond-point. Dans un premier temps, elle en voulait à Megan de lui avoir caché sa grossesse, de ne pas lui avoir dit, d'avoir tenu 16 ans. Elle était heureuse de savoir quelque chose que Megan ignorait. Elle voulait garder ce petit secret rien que pour elle, pour une fois. Quelque chose que Megan ne maîtrisait pas. Et surtout, elle tenait la promesse qu'elle avait faite à Jean, un adolescent de 16 ans qu'elle venait de rencontrer. Mais elle en avait le double et savait désormais que ce n'était pas mentir que de prendre les devants, que c'est bien, parfois, de protéger les gens et de faire malgré eux, de faire comme on le sent nous, en accord avec son histoire à soi. Que si on t'a mis toi au milieu de ce foutras, faut faire avec toi. Et avec ce que toi, tu veux. Que toi, tu as le droit de sentir des choses et de les suivre. Même si tu as bu un peu trop de vin. Hein ? C'est connu que prendre des décisions, faire des appels importants, c'est bien de le faire quand tu as un taux d'alcoolémie qui t'empêche légèrement de conduire n'importe quel engin avec des pneus. Que même un vélo, normalement, vaut mieux pas le prendre quand tu es sur le point de te faire une bosse sur le front en attrapant ton verre. Alors, d'un frôlement de doigts, et avec un petit goût de vionnier, le téléphone d'Elisa se mit à faire sonner celui de Megan. Megan n'était pas sur son canapé. Elle était sur celui de Tony. Anthony, de son vrai prénom. Sa jambe parfaitement épilée, enlaçant les hanches en mouvement saccadé de l'homme. Ses mains manucurées de la veille s'appuyaient sur les épaules anormalement musclées que Tony sculptait tous les jours à la salle de gym dont il était le propriétaire. Elle jetait en arrière sa longue chevelure avec des mouvements qu'elle avait presque réussi à rendre naturels. Et elle se mordait elle aussi la lèvre du bas. C'est de films d'un autre genre que Megan prenait les codes. C'était le moment. Son index et son majeur rejoignaient le dessus de son nez et son pouce se collait pour rejoindre l'entrebâillement de ses lèvres. Ceci, afin de ne pas faire aboyer les chiens, comme cela arrive presque tous les deuxièmes jeudis du mois, lorsque la femme de Tony part visiter sa mère en maison de retraite. Encore un autre cliché. Encore une autre vérité. Le pouce presque moite, Megan ne put se retenir et les spasmes qu'enclenchait le martèlement de Tony et son accrochage soudain de téton du plein de sa bouche firent hurler Megan de plaisir et enclenchèrent l'habituel concert de bergers allemands de l'autre côté de la pittoresque villa au milieu des sapins toujours aussi beaux de Corrèze. C'est au moment où leurs flancs se séparaient que le téléphone de Megan se mit à sonner. Le fessier de Megan prit une cambrure aussi arrondie que les sourcils de Tony afin d'aller rejoindre l'appareil qui sonnait sur le bar, en matière polyvalente rouge. Lorsqu'elle vit le nom d'Elisa apparaître, elle prit le temps de remettre sa robe portefeuille et, tout en cherchant une cigarette dans son sac, elle fit signe à Tony qu'elle allait dans la véranda pour s'isoler. Ce qui ne manquerait pas de rendre ce tas de muscles jaloux au plus haut point et qui lui permettrait un deuxième round plein de rage et de véhémence, ce qu'elle adorait. En faisant bien attention de se mettre sous la lumière de la balancelle en osier, face à la vitre qui donnait sur le canapé, Megan répondit d'un air naturellement enjoué et sincèrement heureuse d'entendre sa cousine.
« Ma belle, comment vas-tu? Tu es bien rentrée ?»
Ces 9 mots firent régurgiter Elisa, et quelques gouttes de vionnier allaient rejoindre les miettes du canapé. Sa cousine ne lui avait jamais fait de compliment. Elle demandait de ses nouvelles et ne se rendait pas compte qu'elle était rentrée depuis quelques semaines. Heureusement qu'elle était bien rentrée depuis. Elle était mal. Elle ne se sentait pas belle. Elle regretta de suite le tapotement que ses doigts avaient fait sur son clavier. Mais elle ne pouvait décemment pas raccrocher. Non, elle ne le pouvait pas. Si ? Non, elle ne le pouvait pas. Elle ne parlait pas. Cela faisait presque 2 respirations qu'elle ne parlait pas. Il fallait faire quelque chose, il fallait dire quelque chose. Elle prit une nouvelle gorgée de vin et sa bouche assuma ce que le liquide avait engendré.
J'ai l'impression d'avoir les os qui poussent, ma chair. Comme quand ton corps, il change. Comme si j'étais une adolescente. Je comprends pas tout ce qui se passe en moi. C'est désagréable. Je digère pas. J'ai la nausée. Oh, le matin, je me lève, la tête qui tourne et qui peut pas oublier. Et j'ai tout ce que j'ai ingurgité la veille qui sort dans la cuvette. Qui atterrit une toile impure de mes souvenirs passés sur fond blanc. Je voulais pas revivre tout ça. J'avais dit que j'arrêtais les premières fois, mais ces sensations-là, ce frisson-là, on s'y habitue. Jamais et toujours, il est plus fort que nous. J'aime pas être le personnage principal de l'intrigue. Moi, je suis faite pour être un personnage secondaire. On laisse tranquille entre les lignes, qui est là, mais prend pas l'attention, et permet au héros de trouver sa résolution. C'est moi qui fais ça, je le sais. Et j'ai pas d'autres ambitions. Et toi, tu m'as toujours laissé être ça. C'est pour ça que je t'appelle. C'est pour ça que je suis contente d'être là pour toi. C'est vrai? Là, maintenant, tout de suite. Jean, c'est ton fils à toi. Moi, je peux juste aider. être à ma place. Et ce qu'il vit, c'est plus fort que mon malheur. C'est plus fort que tout. La quête de soi, de se trouver. Moi, je ne me suis pas perdue. J'ai juste repris le même chemin, en l'aidant. Tu sais qui est le père de Jean. Ça se voit. Comme le nez au milieu de sa figure. Le nez de Karim, on l'a retrouvé au milieu du visage de Jean. On l'a retrouvé. En Alaska. Il est en Alaska. Et c'est lui, c'est certain, le père de Jean. Tu le savais, non? On a fait un retour vers le futur et comme j'ai rien demandé, il y a toutes ces images, ces visages qui reviennent. Des gens que je pensais jamais revoir. J'avais fait le choix de faire ma vie sans eux. J'ai grandi et là, à cause de toi, ils sont revenus. J'ai revu Samy. Je voulais pas le revoir. J'y pensais pas, c'était un souvenir, c'est tout. Je saurais pas dire si c'en était un bon ou un mauvais. Et... c'était la surprise, un truc que je contrôlais pas. J'ai cru que ce serait une belle histoire. J'ai vraiment cru que Samy et moi, ça repartait. Mais c'est tant pis pour moi. Je l'ai trop voulu. Je sais même pas ce qui s'est passé. Ça a pas duré longtemps. Juste le temps de l'espoir de s'imaginer trop de choses. Il avait prévenu. Et moi, j'ai pas voulu écouter. Je m'en veux à moi. C'est fou ça. Parce que ça se fait à deux, non? Ça se fait à deux, une rencontre. Une rencontre, ça se loupe à deux. Moi, j'ai pas envie de bavasser là-dessus. Mais ça prend tellement de place, toute la place que je voulais lui donner, qui était libre depuis si longtemps et qu'il a réussi à prendre en quelques instants. Et je veux pas qu'on parle de moi. Hein? Toi, dis-moi, tu as toujours des choses à dire.
Samy et toi, vous avez eu votre moment. Et avoir un moment, c'est bien. En vouloir un deuxième, c'est de la gourmandise. Et il paraît que c'est un vilain défaut. Et c'est pas bien d'avoir des défauts. Ah non, c'est pas bien du tout. On te le dit toujours, depuis toujours on te le dit. On te dit toujours que c'est négatif. À défaut de quoi tu peux faire mieux? Tes schémas ancrés en toi, qui recommencent, qui font que parfois, tu es désagréable. Que c'est désagréable d'être avec toi des fois. Où tout ce que tu vis, ça transforme toutes les phrases autour de toi avec un préfixe négatif. Comme si tu faisais exprès d'être comme tu es. C'est vilain. C'est un vilain défaut d'être soi. Il ne faut pas. Un vilain défaut, ça veut dire qu'il y a un gentil défaut? Il y a des défauts qui sont gentils. Comme si tu aimais mettre en marche tous ces mécanismes de défense. Comme si tu te délectais, que tu prenais un bain de 2 heures avec des bulles de mauvaise foi et de parler trop fort. Des celles de peur qu'on t'oublie, de prendre les devants et de pas tout le temps t'exprimer clairement. Comme si tu faisais exprès que tu contrôlais. Alors qu'on sait, on le sait ça, qu'on ne contrôle pas ces choses-là, que c'est compliqué. On t'accuse d'être dans ta facilité, de pas faire d'efforts, de trop être toi-même. Mais déjà, c'est bien d'être soi. Tu trouves pas? C'est bien de s'en rendre compte. Mais non. On va te désapprober. T'inquiète, elle est comme ça. Il est chiant quand elle fait ça. Et toi, t'es pas chiant? Ça te confronte pas quand on te met face à ce qui te fait défaut? D'être dans une situation où tu te trouves inconfortable? Toi, tu deviens pas chiant? Tu parles plus ou tu ronchonnes? Tu parles mal? Où tu t'énerves. Quand on dit « Bah là, elle est dans son élément, c'est facile pour elle. » Tu vas voir un spectacle, et quand tu vas le voir, et qu'à la fin, on dit de la comédienne « Elle fait ce qu'elle sait faire. » Elle pourrait changer, franchement. Elle pourrait travailler, elle pourrait aller chercher ailleurs. Mais déjà, elle fait. Toi, tu fais quoi? Déjà, elle sait faire avec elle-même. Déjà, elle arrive à faire avec elle sur une scène. Et elle le fait bien. Elle est payée pour ça. Et on la désire comme ça. Toi, tu fais quoi avec toi-même dans la vie? Le bénéfice du doute. Le doute. La parcelle de pensée qui fait qu'on survole les faits. Qu'on prend du recul. Un petit jus de fruits au-dessus de la situation. Qu'on laisse sa chance à tout ce qui a été mis en route pour que l'incident ait lieu. Quand on oublie qu'à la base, on est juste un foutra de chair, d'os, de muscles, de sang, de peau, de ligaments et de miasmes. Qu'on est un fatras de globules et de neurotransmetteurs. Et que si tu vas pas bien, bah pense à caresser un chat. Ça fait remonter ton niveau d'ocytocine. Tu sais c'est quoi l'ocytocine? Ça fait partie du quatuor du bonheur. La dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine. Le quatuor magique, palam ! Mieux que la Justice League dans ton corps. C'est des réactions chimiques qui font que tu ressens ce que tu ressens. C'est aussi évident que quand tu bois de l'eau, plus tard, tu vas faire pipi. Quand tu fais du sport, t'as l'endorphine qui se manifeste et là, tu te sens bien. Ça aide à faire face au stress. Si tu es un peu anxieux parce que le lendemain, tu dois présenter un gros projet à ton patron, bah n'hésite pas, t'as même pas besoin de faire un gros effort. Prends ton vélo d'appartement, tu mets The Good Place sur Netflix, 28 minutes, et bam, t'as mis en route l'endorphine qu'il te faut pour ton grand rendez-vous. Parce que t'as fait du vélo et parce que t'as rigolé. Rire, c'est comme le sport, ça stimule l'endorphine. C'est pour ça la série TV. Et le vélo d'appart. C'est le combo Ramucho pour ton bien-être. La sérotonine, bah en fait, c'est ce qu'il y a dans les antidépresseurs. C'est quand t'en as pas beaucoup et que tu te sens déprimé souvent. Ça se diffuse quand on se sent important et utile. Du coup, si t'as un coup de mou, tu peux te rappeler quand t'as été témoin du mariage de ton pote et que tu courais après tout le monde pour faire les photos du groupe. Là, t'étais un super héros. T'as pas pu profiter du bar. T'as mangé aucun petit four et t'as réussi à être aussi cordial avec la grand-mère qu'avec le neveu de 6 ans. Le plus fort du monde. Ça va faire remonter ton taux de sérotonine de vraiment beaucoup de pourcents et tu te sentiras mieux. La dopamine, c'est un système de récompense. C'est ce qui se produit quand tu atteins un objectif. Ça t'aide quand tu manques un peu d'enthousiasme dans la vie. Tu te mets des petits défis. Genre, enfin ranger ton vide-poche qui traîne dans ton entrée ou trier les courriers que tu as déposés au coin de ton bureau. Quand ils seront chacun rangés dans leur pochette respective, je te raconte pas le taux de dopamine que tu vas sécréter. Encore mieux que la coke. L'ocytocine, c'est ce qui fait que tu as confiance en toi et que tu crées des relations saines. C'est ce que le corps de la femme sécrète quand elle accouche ou quand elle allaite. C'est ce qui rend un couple fidèle. Il y a des tests là-dessus, je te jure. Des rongeurs qui sont censés être polygames, on leur a fait prendre des doses d'ocytocine et bim, ils sont devenus monogames. C'est magique. Et c'est tout dans notre corps. C'est à la portée de tous, tout le temps, gratuitement. Il y a un schéma qui montre les sources d'ocytocine qui circulent sur les réseaux sociaux. J'y passe pas mal de temps sur les réseaux. Tu sais, c'est pas tout le temps évident de passer le temps. Bon, sur le chemin, tu as un gros rond avec marqué source d'ocytocine. Et autour, c'est simple, il y a d'autres petits ronds avec des flèches qui vont vers le centre. C'est un chemin super simple. Donc, il faut une de ces choses. Des mots doux, des relations harmonieuses, être écouté et compris, avoir des regards bienveillants, des baisers, des conversations agréables, des plaisirs partagés, une ambiance chaleureuse, des orgasmes, un contact avec de l'eau chaude, des massages, des caresses, des contacts tendres, faire des cadeaux, écouter de la musique. C'est censé être simple, non? Tu trouves pas? Non? Ça devrait être simple. C'est normal que tu te sentes pas bien, Elisa. T'as eu une battle de super-héros dans ton corps pendant tout le temps que t'as passé avec Samy. Tu te sentais forte parce que tu t'es regardée avec bienveillance. Tu défonçais tout parce que vous vous touchiez, vous vous frôliez. Et tu riais parce que ton cerveau, il avait plus peur. La dopamine, ça fait ça aussi. Ça fait que tu sens plus le danger. Ça fait que tu lâches prise. Et là, rien. Et je sais. Moi, je sais qu'avant, t'as déjà bien puisé dans toutes tes sources. Je sais ça. Je sais que t'es fatiguée de ça. Et c'est normal. Je sais. Moi, quand Jean est arrivé, de l'adrénaline, j'en ai eu. C'était fou. Je le prenais dans mes bras. Et l'ocytocine, je te raconte pas. Je devenais Wonder Woman. Mon fils dans mes bras. Mon fils. Je sais même pas si j'ai le droit de l'appeler comme ça. Il me fait des hashtags Megan dans ses stories Instagram. Et il fait des hashtags maman à l'autre femme. Mais je comprends. Alors je prends des bains. Beaucoup. De l'eau chaude. C'est dans le schéma. C'est censé faire remonter l'ocytocine. C'est censé me faire sentir maman. Tu les as rencontrés, toi ? Je suis contente que tu l'aies fait. Moi, je suis pas prête, j'avoue. C'est dans mes vilains défauts. J'ai pas la force de faire face. Je suis contente que tu m'appelles. Que tu me racontes tout ça. Tu t'es pas obligée. Je vais laisser faire. Je vais le laisser aller voir Karim. Ça me fait plaisir. C'est leur histoire à eux. Je savais pas. J'ai pas voulu savoir. Maintenant que tu le dis, évidemment que c'est Karim. Ouais, évidemment. Un vieux classique. Moi, je vais aller écouter du Michel Berger, tiens. Je vais faire ça, oui. Tu viens quand tu veux, hein. Tu le sais, ça.
Elisa était désormais adossée sur les pieds de son canapé. Après avoir raccroché, elle ne réussit pas à atteindre son lit. Elle n'eut qu'à tendre le bras pour trouver un plaid, afin de s'en recouvrir avant de sombrer dans un sommeil bien profond. En 2019, ce qui est bien, c'est aussi ça. Des plaids, tu en as forcément un qui traîne autour de toi. Des plaids, tu en as toujours beaucoup. Quand tu as 30 ans passé, tout le monde a pensé un jour à t'offrir un plaid. Et à chaque fois, ça t'a vraiment fait plaisir. Et elle s'endormit. Ce n'est pas son réveil qui l'a sortie de sa malgré tout douce nuit. C'est son téléphone. Encore lui. Cette forme carrée qui prend toute la place. Dans tes mains, dans ta tête, dans ta vie. Tu sais, comme tu te sens amputé quand tu laisses ton téléphone chargé pendant que tu vas juste poster ton loyer. Parce que il y a encore des gens qui postent leur loyer, qui écrivent sur un chèque, prennent des stylos qu'ils galèrent plus ou moins à trouver chez eux, qui s'étonnent que leur index et leur majeur n'arrivent plus à guider le stylo aussi facilement qu'avant sur le papier, que la lettre U après la lettre H et avant la lettre I, c'est un enchevêtrement d'arrondis qui tend à disparaître. Que tes doigts, ils buguent pour de vrai. Qu'ils ont déjà muté vers des tapotis sur un clavier et que cette nouvelle gymnastique a effacé le fameux entraînement que l'éducation nationale a pourtant mis tant de temps à te faire pratiquer. Écrire sur un papier. La beauté du geste. La cognitive qui disparaît, le signal, l'enregistrement de l'information. Il ne prendra plus tes mains en entier, mais juste la pulpe du bout de tes doigts qui rebondit sur un clavier. Il n'y aura plus de papier. On dit que c'est plus écologique. Il n'y aura que des mails. Et pourtant, la banquise continuera de disparaître. Comme tes sens. Des rebelles. Ouais, des rebelles, des gens qui envoient leur loyer, ces gens qui marchent dans la rue sans portable, dont le cerveau est titillé en permanence sur le chemin de la boîte jaune. Un signal qui fait qu'on se sent pas bien, qu'on sent qu'il nous manque quelque chose, qu'on est amputé d'un membre, qu'on n'est pas en entier. Parce qu'on a laissé un bout de plastique, souvent noir, se charger. Le temps d'une petite promenade.
Let him go.
Ce matin-là, le téléphone était dans le salon d'Elisa, avec assez de batterie pour sonner. C'était Jean. Un appel vidéo. Il appelait toujours en mode vidéo. C'est encore une chose qu'Elisa ne comprenait pas. Elle avait eu un téléphone portable super tard. Ça commençait tout juste quand elle était ado. Et à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas ça. C'était encore un miracle pour elle qu'on puisse se voir à distance, n'importe quand, dans n'importe quelle position. C'était pas encore un réflexe. Elle savait pas comment Jean faisait pour se trouver toujours à son avantage en vidéo. Une nouvelle mutation du cerveau, là aussi. Un sixième sens ? La nouvelle génération sait automatiquement comment relever son menton et prendre la lumière. Alors, elle décrocha, sans sixième sens, les yeux plissés et la marque du plaid sur la joue.
Tu savais que Molière était né 6 ans après la mort de Shakespeare et que Voltaire était né 21 ans après celle de Molière? Que Rimbaud était né 76 ans après Voltaire et qu'il serait plus vieux que Rachmaninoff? Quand Shakespeare est né, il n'y avait pas encore de ville dans l'Amérique. Quand Molière a fait ses premiers pas, il y avait encore un roi en France et les cow-boys commençaient tout juste à chasser les Indiens. Quand Voltaire est mort, ça faisait à peine 1 an que la déclaration d'indépendance avait été instaurée en Amérique. Et qu'il n'y a que Rachmaninoff qui a dû entendre parler d'un président américain. Mes frères et ma sœur, ils sont américains. Quand ils parlent, il y a un goût de malabar dans leur bouche, comme s'ils remâchaient tout ce qu'ils disent. C'est ce que je me dis. Le plus grand est né 10 ans après moi. Il n'a jamais entendu parler de moi. Je vais lui faire peur. Faudrait peut-être que je lui écrive une musique, peut-être, ou un poème. C'est international de faire ça. Rimbaud, ça touche ce qu'il a fait. Tout le monde, ou presque, Rachmaninoff, c'est pareil. Quand mon oreille, elle traîne et que j'entends le son du piano qui avance, les touches qui sonnent, j'ai du bleu dans le cœur, une grosse boule qui tourne avec des petites taches violettes, un mélange de sang et de veines qui pompent, j'ai des bourgeons dans les oreilles. Il pousse des petits ovales verts qui s'entrechoquent sous mon lobe et qui cherchent à germer, ça pousse. Je pourrais faire ça pour eux, non? Imaginez un petit frère, la tête douce, forcément elle sera douce, même s'il joue au dur. Il croyait être le plus grand, le premier. Faut pas que je vienne trop fort. J'ai pas pensé à eux dans tout ça, j'ai pensé qu'à moi, qu'à l'homme qui a juste déposé une goutte de foutre dans une femme. Je voulais juste le voir, lui dire que j'étais là. C'est moi qui suis censé être le petit, le laisser pour compte, celui qui peut tout faire et les autres doivent juste encaisser et faire parce que les autres c'était censé être des adultes et doivent faire attention à moi. Je suis encore un enfant en vrai. Je suis encore un petit garçon, j'ai le droit. J'ai pas pensé qu'il y aurait un autre petit. Il doit être brun, comme moi, avec des petites boucles que... Quand je serai là, il pourra plus se retourner vers son frère et sa sœur avec la sensation que c'est lui qui sait plus que c'est le plus grand. Je serai là. Et je vais lui enlever ce pouvoir-là. C'est cruel, je trouve. Je vais lui acheter de la pâte à modeler. Ça, c'est bien, non? Il pourra faire des boules bleues, des amas violets et des petits bourgeons verts. Ils pourront jouer tous les trois avec. T'en penses quoi? Tu crois que Karim, il les laissera jouer avec? Tu crois qu'il acceptera que je leur parle? C'est quoi sur ton visage? Sur ton front, là? C'est vert. T'as joué à la pâte à modeler, toi? À ton âge, on dirait du guacamole.
Elisa se regarda dans un petit encart vidéo du téléphone et remarqua ce qui était bien du guacamole sur sa blessure de la veille. Et elle se rappela qu'en écoutant sa cousine, elle avait cru bon de se tartiner un baume sur les tiraillements que sa chute avait engendrés. Et le mélange épicé du guacamole qui se présentait sur la table lui avait semblé être idéal. En cherchant un bout de sopalin, elle pensait à son petit frère, à elle. C'était la plus grande. C'était à elle de gérer les situations. De faire attention? Oui. Quand tu es l'aîné, dès la naissance de l'autre, on te donne un rôle que tu n'as pas choisi. Elle se rappela du Noël 1992. Elle était avec son petit frère, dans une pièce adjacente au salon, la pièce où un de leurs oncles les cachait, elle et lui, le 24 décembre au soir, après qu'une clochette ait sonné. Ce qui annonçait l'arrivée du Père Noël. Au son du titillement, ils devaient courir hors du salon. Parce que le Papa Noël ne pouvait pas voir les enfants, sinon il ne laisserait pas de cadeaux. Loi absurde. Acceptée sans réflexion, en toute confiance par les enfants. On renie rarement les rituels qu'on nous crée. On y croit, dur comme fer. C'est son petit frère qui avait choisi l'histoire qui allait être lue. Elisa s'ennuyait. Elle ne voulait pas de cette histoire-là. Mais c'était lui, le petit. Il avait le dernier mot. C'était ça, être grande. C'est ce qu'on lui disait. C'était comprendre que nous, on ne doit pas faire de caprices. C'est toujours le plus petit qui gagnera. Elle avait envie de faire pipi. Elle demanda la permission et pendant que son petit frère se régalait à écouter les voix transformées et les oreillers jetés pour le distraire. Elle poussa la porte de la salle de bain et sans même s'asseoir, elle entendit du bruit, du côté de la seconde porte, celle qui donnait sur la chambre de son grand-père. Des objets qu'on transportait, du papier qui se froissait, des voix qui chuchotaient. Il était là, de l'autre côté de la porte. C'était certain. Le Papa Noël. Il était dans la chambre de son grand-père et il y avait les elfes avec lui. Ils discutaient. Il y avait quelques éclats de rire. Il était à sa portée. Il était occupé. Il ne la verrait pas si elle entr'ouvrait juste la porte. Elle n'hésita pas une seconde face à une opportunité aussi unique. La poignée était au niveau de son bout de nez et sa main et la petite voix dans sa tête était persuadée qu'elle serait discrète, qu'elle contrôlerait les grincements de la vieille porte en bois, les doigts qui frôlent l'embout rond, les dents qui mordent, la lèvre du bas et le mouvement retenu et maîtrisé qui engendre l'entrebâillement du portail vers la découverte de ses parents et ses autres oncles, fourmillant dans une pièce pleine de cadeaux. Elle lâcha la poignée, entraînant un grincement et une ouverture radicale de la porte. Sa bouche ne put retenir un « mais » sonore et empreint de tressautement. Et le temps s'arrêta. Tout le monde vint vers elle. Il y en a un qui la prit dans ses bras, un qui referma la porte, un qui l'assit sur le lit de son grand-père, et tous reprirent leur souffle, pas à l'unisson. Ne le dis pas à ton frère. Tu viens de louper le Papa Noël, il est parti. Ne le dis pas à ton frère. Il nous a demandé de faire le tri. Qui a oublié de fermer la porte à clé ? Elle reconnut alors les couleurs des papiers rouges et verts qui traînaient dans le cagibi de ses parents. Elle reconnut l'écriture de sa mère sur quelques étiquettes. Elle vit la clochette sur la table de chevet. Elle reconnut la peur qu'ils venaient tous d'avoir. Alors elle ne pleura pas. Elle resta fière. Elle avait compris. Tout un monde s'écroulait en elle. On lui avait menti. On s'était moqué d'elle. Alors, prise de panique, elle chercha quoi faire. Mais j'aurai quand même des cadeaux ? Oui, elle aura quand même des cadeaux. Ils la prenaient dans leurs bras, essayaient de la rassurer. Mais elle ne voulait pas traîner, elle ne voulait pas rester dans cette pièce. Elle ne voulait pas que son petit frère se doute de quelque chose, elle ne voulait pas qu'il soit déçu, qu'il vive ce qu'elle venait de vivre. Il fallait qu'il profite encore de l'innocence, parce que c'est agréable, l'innocence. Parce que la magie, elle avait adoré y croire. Alors elle se remit sur ses pieds, rouvrit la porte des toilettes, leur dit de bien fermer à clé derrière elle. Elle pensa même à ne pas faire pipi pour ne pas perdre de temps et que son frère se demande pourquoi elle mettait tellement de temps. Elle ouvrit la porte qui menait à la pièce d'attente. Son frère riait aux éclats. Il était surexcité. Des larmes lui montèrent aux yeux. Mais elle devait tenir. Elle ne voulait pas qu'il y ait un doute. C'était un moment heureux pour lui. Elle s'assit à côté de son oncle, sagement. Elle tenta de commenter quelques images, sans avoir à regarder son frère dans les yeux. Et lorsque la clochette résonna, signe que les enfants pouvaient retourner au salon, son frère courut de toutes ses forces. Elle le suivit de près, et quand son oncle se retourna vers elle en lui tendant la main pour lui dire de regarder vers la fenêtre, parce qu'elle devinait encore la trace du traîneau de Papa Noël, elle lui demanda de baisser les yeux. Et elle lui dit à l'oreille « Je sais ». Et alors qu'il la regardait interloquée, elle vérifia que son frère était toujours en quête de traces blanches, de traîneaux dans le ciel. Et elle posa son annulaire sur sa bouche, tout en retroussant son nez, afin que le liquide qui tentait de sortir de ses yeux reste en elle. Vivre à plusieurs, dans le cocon, dans l'intimité, et grandir, et apprendre à faire sans l'autre. Développer ta propre bulle. De la pâte à modeler, oui. C'était bien. Il y a tout un monde à refaire. Tu peux juste faire un petit tas informe, juste mêler tes paumes à la matière, les couleurs qui deviennent autres, et juste vivre ce moment-là. Partager ou reproduire, savoir composer, le vert au milieu et le rouge autour. Tu peux tout faire. Le maître de ton monde, à n'importe quel âge, tu peux aimer faire ça.
Oui, la pâte à meubler, c'est bien. Tu peux faire des cabanes aussi, avec lui. Tu sais faire ça. On fait encore ça, non? Faut leur apprendre. Imagine, il y a un crack géologique. Il n'y a plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus rien d'informatique. Il faudra revenir à la matière première. Et faire des cabanes. Et survivre. Faut faire passer ce savoir-là. Faut pas l'oublier. Tu sais faire ça? Toi, tu seras sain et sauf si tout brûle. Parce que là, tout est beau dans l'écran. Tu sais toujours quoi dire au bon moment, chercher sur le bon réseau. T'as pas eu à intégrer les technologies, toi, c'est inné. Mais t'as pas traîné dans les bois, dans les jardins. On t'a laissé? On t'a laissé prendre un bout de bois? On t'a laissé prendre un couteau suisse? Et jouer avec l'écorce? La peur, elle a pris les parents et tu peux plus rien faire. La pâte à modeler, tu devrais même la faire toi-même. Les produits chimiques, tout ça, ça se trouve, hein? Si ça se trouve, c'est pas bon pour les mains des petits, c'est pas bon. Tu sais plus quoi faire en vrai. T'es sur la bonne voie. Promets-moi une chose, promets-moi que tu vas lui apprendre à regarder et à entretenir. Que quand il recevra un texto d'une fille ou d'un garçon qu'il aime bien, il répondra. Qu'il fera pas le mort. Qu'il se dira pas qu'une personne, on peut l'enlever de sa vie en glissant son index sur le côté d'un écran. Que ça, c'est parce que... Enfin, que ça, c'est que sa photo. Hein? Que c'est pas parce que sa photo n'apparaît plus qu'elle a magicalement disparu de la planète. La personne, elle est encore là. Elle prend le métro le matin. Elle respire le même air que lui. J'ai peur que son cerveau, il enregistre pas ce que c'est qu'une rencontre physique. De sentir les hormones, les flux qui se passent. Ça commence déjà, je le sais. La fidélité, Megan, elle dit que c'est l'ocytocine. Mais c'est aussi vital, à la base. C'était aussi limiter les partenaires contre les maladies pour la survie. On le sait, ça. Alors là, notre espèce, elle est en train de faire quoi comme mutation? Personne ne comprend, plus personne. L'information a jamais autant circulé et les individus se sont créés leurs opinions tout en étant esclaves. Ton opinion? Tu te la fais avec la ligue du LOL? C'est ma génération, ça. Des mecs qui se rassemblent entre eux derrière un portail fictif, qui trouvent ça génial,
parce qu'on savait pas ce que c'était, les réseaux sociaux, avant. Des mecs qui se titillent le gland en rabaissant ceux qui ne sont pas comme eux. Un entre-soi qui dirige aujourd'hui les antennes de nos cerveaux, de quelle information arrive jusqu'à toi et comment tu dois la comprendre. Ça a toujours été comme ça. Mais là, t'as pas à t'acheter un costard, passer la porte du club et savoir fumer le cigare. T'as juste à être en caleçon, devant ton écran, à savoir manier Photoshop. Dis-lui à ton petit frère de faire attention. Il y a tout un monde à refaire. La pâte à modeler, oui, c'est bien. Prendre le temps de modeler. Que ton cerveau, il choisisse les formes et les couleurs que tu veux, sans bouffer la vue des autres. Prendre le temps, attendre. On ne sait plus faire. Avant, pour se voir, les gens allaient au bar et vaille que vaille, les gens marchaient dans les rues et s'arrêtaient, je me souviens. Le week-end, avec mon petit frère, on avait notre grenadine. On avait des dizaines de personnes qui tournaient autour de nos parents. Au bar, toujours un nouveau qui part, un qui arrive. Des après-midi entiers, le flipper, le billard. Ado, si on voulait voir quelqu'un, on appelait du téléphone fixe. On choisissait un endroit et on se rejoignait. Et si on était en retard, on prévenait pas. Hein, on pouvait pas. Et l'autre, il lisait un magazine, il lisait un livre, il parlait avec des gens. Il avait pas la tête bloquée sur un portable. Tu pouvais même pas prévenir avec la cabine téléphonique sur le chemin. Parce que d'une, c'était rare qu'elle soit vide. Puis, on savait pas où appeler. Au bar, il aurait fallu chercher le numéro du bar dans les pages jaunes de la cabine ou voir si on l'avait noté sur notre annuaire perso. Composer le numéro, dire au patron de chercher son ami et lui dire de nous attendre. Non, 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 on faisait pas ça. Chez les parents, là, tu connaissais le numéro par cœur, mais t'avais peur de faire une gaffe. Aujourd'hui, si on a 5 minutes de retard, on envoie un message. On part de quelque part, on envoie un message pour dire qu'on part. On n'imagine plus faire retour en arrière. Vous, pour vous voir, vous ouvrez Snapchat et vous voyez où l'avatar de votre ami se trouve et vous pouvez le rejoindre sans le prévenir, sans être invité. Et ça vous gêne pas. Qu'on sache en permanence où tu te trouves. D'ailleurs, t'es où, là? T'es pas censé être au lycée à cette heure-ci?
On n'est pas en cours. On est dans la cour. Sur ton canapé, t'as pas pu lire ça? Ça fait 3 semaines qu'on fait grève dans les lycées. Les profs ne donnent plus de notes. Ils font des soirées pyjama. Ils savent plus comment se faire écouter. Ils ont trouvé le bon filon. Hein. Les parents deviennent fous. Les élèves, ils ont plus le sacro-saint système de récompense. La note qui dit que si tu as du savoir ou pas. Et nous, de notre côté, on fait la grève des élèves. Une fois par semaine, on se rassemble en dehors des salles, de classe. On veut que les abeilles butinent. On veut réparer ce que vous avez détruit. Le trop. On a avancé trop vite. Et c'est nous qui allons en payer le prix. On le sait. On est tous paumés. Toi, avec tes traces de guacamole sur le front. Moi, avec mon menton qui prend parfaitement la lumière. On sait. On le sent. On a beaucoup plus accès au savoir que vous. Ce que vous avez découvert, nous, on l'a en nous. T'as raison, je le sais, ça. Je sais pas attendre, j'ai tout ce que je veux, comme parce que mes parents, ils ont été frustrés par l'attente, alors ils veulent pas que je vive ça. L'attente, c'est mal vécu, je sais. Ça me rend fou quand je suis dans la file d'attente de la boulangerie et que le mec d'avant hésite entre la pizza aux anchois et le jambon beurre. Mais c'est pas pour autant que je fais comme vous. Que je commande, que je me fais livrer, que j'ai ce que je veux, où je veux, au moment où je le veux. Je résiste. Je sais le prix que ça coûte. Je me doute que le livreur se fait exploiter parce qu'il a réussi à survivre au bateau. Je sais qu'il y a du Monsanto dans mon chorizo, que 70% des graines produites sur la planète, elles nourrissent la viande qu'on va manger. Qu'il faut pas s'étonner qu'il y ait plus d'insectes dans 100 ans si tu mets des antipesticides dans les plantes, que des ours blancs s'approchent des habitations en Russie parce qu'ils trouvent plus de poissons dans la mer, que l'odeur des décharges les attire, que c'est dangereux. Tout le microbiote de nos intestins qui se modifie et on sait pas comment faire. Vous avez tous mal au ventre. Vous digérez plus le lait. Je sais ça. Alors j'évite. Je veux vivre la sève qui monte quand le mec montre le sandwich d'un doigt et lève son autre index dans la direction de la pizza. J'essaye d'en profiter pour regarder ailleurs que la quiche que j'avais choisie. Parce que moi, mes yeux, ils sont habitués à scanner d'un coup et à choisir vite. Je vague pas. Je sais sélectionner quand j'attends. J'ai le pied qui tapote sur le sol. J'essaye de pas regarder mon téléphone comme les autres. Dans la file, je découvre et je vois. Caché dans un coin, un jeune homme dans la vitre de la cuisine qui lève les yeux vers moi entre chaque mouvement de bras. Et la torture de l'attente se transforme. Ces sensations désagréables, je veux savoir les gérer, y trouver des bonnes choses. On tente de les éliminer avec le progrès qui est là que pour nous abêtir et nous rendre dociles, des gens de plus en plus gras à qui on a servi du divertissement en direct, dans leur intérieur, plus besoin de sortir et de voir dehors comment ça se passe. On choisit pour toi, le sens que ça doit avoir, je le sais ça. Toi, tu savais pas. Tu l'apprends maintenant, avec ton âge. Et t'as déjà été bourré. On a trouvé ça super de te transformer le sucre à tout va. Ton corps, il savait pas ce que tu ingurgitais. La télé, tes parents, ils ont eu la surprise de découvrir le monde de chez eux. Et toi, c'est ton rythme, je sais. Renard Chenapan, Nicky Larson, Hélène et les garçons, Beverly Hills, Melrose Place, X-Files, je sais. Avec Samy, vous en avez parlé des heures, des souvenirs communs vécus chacun chez soi. Comment ça se fait? On n'a jamais eu autant de moyens de communication et les gens se ghostent en permanence. Des fantômes. J'ai vu les gens de ton âge sur Instagram. Ils font tous des vidéos où ils expliquent comment ils ont dû faire une détox digitale parce qu'ils s'y retrouvaient pas à la course au like. Qu'ils sont surpris que chacun ne montre que la bonne partie de soi. Que ça rend fou, que c'est que du mensonge. Mais nous, on le sait ça. On sait ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut garder pour soi. On a les codes. Ça a toujours été comme ça. Les gens ne racontent que ce qui les avantage, aux inconnus, en soirée, à la voisine de palier. Tu te rappelles de ce mouvement où les gens se montraient en train de pleurer sur les réseaux? Ça n'a pas duré longtemps. Comme s'il fallait le voir sur un écran pour se dire que les autres aussi y souffrent. L'empathie, c'est devenu un mauvais coup de mascara. Tu es un des premiers spécimens, un des premiers produits sur lequel l'emprise devait prendre. La dernière fois, tu te réjouissais de trouver facilement des tailles 46 dans les magasins. Mais oui, les corps, ils ont changé. Et l'économie, elle suit le pas. Regarde autour de toi. Je vois 3 plaids made in China, 2 verres Ikea, un bol fait au Bangladesh, des avocats pas de saison. Il n'y a que le vin qui vient de France. Et en fait, en vrai, je sais que t'as été instrumentalisé et que ça demande un effort de fou de faire attention. Mais des efforts, nous, on espère avoir l'énergie pour. Parce qu'on n'en a jamais vraiment fait. Parce qu'on nous a pas enlevé ça, qu'à force de tout faire pour nous, on va réussir à trouver la solution. Que c'est pas trop tard. Bien sûr que je veux jouer avec des bâtons. Bien sûr que je veux qu'il fasse froid en hiver, faire des bonhommes de neige. Un petit frère, un Américain, c'est un sacré challenge. J'y suis dans quelques mois, j'ai le temps de chercher encore. Je savais pas que je pouvais avoir cette place-là pour quelqu'un.
La crampe matinale d'Elisa l'a pris de suite. Elle n'eut pas le temps de s'excuser. Le téléphone atterrit, la caméra face au plancher, face au plafond, et le bol provenant du Bangladesh reçut la bile qui manifestait la créature qui s'était installée au creux des muqueuses d'Elisa. Une part de rancune et de textos sans réponse, un bout de Samy qu'elle ne pensait pas avoir autant en elle. Ce n'était pas que dans la tête. Et si la gourmandise était un vilain défaut? Si donner une deuxième chance, c'était déjà trop. Un petit être contredisait déjà les idées reçues, les actes de ses ancêtres, et poussait tous les matins dans les entrailles d'Elisa. Il criait son existence et l'espoir qu'Elisa ne voulait pas encore voir.
d'entendre Bienvenue à bord, un des épisodes de la saga Elles y croient qu'elles peuvent voler, écrite par Eva qui est ici dans le studio. Est-ce que Eva, tu veux rajouter un mot sur la saga, sur ce qu'on vient de lire aujourd'hui?
Ben, merci à tous déjà. Et voilà, bah, je pense que comme vous l'avez vu, c'est vraiment une photographie de ce qu'on vit à l'instant T. C'est ce que je tente de faire avec cette écriture. Donc c'est un témoignage d'aujourd'hui, quoi. C'est vraiment aujourd'hui, le 22 février 2019, où on en est, en tout cas où notre génération, enfin, en tout cas la mienne, qui est la génération Y, se situe par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà.
Eh ben merci beaucoup. En tout cas, il restera encore deux épisodes qu'on découvrira là, dans les mois qui arrivent à la Gamelle. Merci beaucoup. Et du coup, dans les quelques minutes qu'il nous reste, on va faire l'habituel agenda. Qui a des actus à nous partager?
Gauthier, non? On a...
Oui, tout à fait. Oui. Une actu qui concerne le théâtre des Clochards Célestes du 6 au 10 mars prochain. Une pièce qui s'appelle Immortel de Nasser Djemaï, par la compagnie Parole en Acte, que j'ai la joie de mettre en scène. C'est une grosse aventure. Huit acteurs sur le plateau qui nous fait plonger dans un groupe de jeunes Black Bloc, donc des militants contestataires, anticapitalistes, qui se posent la question de leur engagement et de la limite de la violence pour se faire entendre. Tout ça est entrecroisé d'une enquête du frère du leader du groupe qui est décédé dans un accident. Et donc ce frère enquête sur la mort de son frère aîné et il va découvrir la vérité sur son histoire. C'est une quête d'identité, c'est une pièce qui parle aussi d'actualité, d'engagement politique, du statut de la violence. Donc voilà, on est très heureux de la jouer à Lyon du 6 au 10 mars au Clochard Céleste.
Eh ben merci beaucoup. Et c'est aussi au Clochard l'actu que tu veux partager avec nous?
Non, c'est au Carré 30.
Au
Carré 30, là, ils ont toute une session de jeunes publics en ce moment pour les vacances scolaires. Donc, il y a des séances à 14h30 et à 16h. C'est des spectacles à partir de 4 ans. C'est jusqu'au dimanche 3. Et vous aurez certainement le plaisir d'y croiser Jean, qui lisait aujourd'hui le personnage de Jean.
Eh bien, merci beaucoup. Du coup, on ne manquera pas d'essayer d'aller voir ces pièces. Pensez à réserver en amont. Et puis, parce que c'est deux salles qui ne sont pas très grandes, donc c'est bien de pouvoir anticiper. Sachant que si vous n'avez pas réservé, parfois, il y a des personnes qui ont la grippe, qui ne sont pas là. Donc, ça vaut quand même toujours le coup d'aller...
C'est l'avantage.
C'est l'avantage de la grippe. Eh bien, en tout cas, merci pour cette émission. C'était super de découvrir ce texte. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session du Théâtre de la Gamelle. Et en attendant, portez-vous bien.
Merci, bonne semaine.
Bonne semaine.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'arme. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires, snob.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
C'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Lui.
Imiter son silence.